Bonjour, Michel Bougenat.
Bonjour, madame.
Michel, vous êtes de passage au Québec pour un peu venir peut-être parler de votre tournée que vous allez faire ici au mois de novembre.
Oui, oui, oui. C'est très étonnant pour moi parce que d'habitude, quand on vient au Québec, on joue à Montréal et à Québec en général. Une fois, peut-être Trois-Rivières, mais c'est tout. Et là, je joue dans des endroits comme Terrebonne, Saint-Jean.
Mais vous faites la vraie tournée d'humoriste.
Oui, exactement. Je peut-être que, en fait, je sais pas, mais peut-être que, en fait, j'ai des origines québécoises finalement. mais j'étais pas au courant.
Vous êtes quand même énormément apprécié ici au Québec. Là, on s'entend que vous avez une histoire d'amour avec le Québec qui est longue. Vous en êtes rendu où justement avec le Québec?
Vous savez, d'abord, quand je tombe amoureux, je tombe pas amoureux tous les jours. Et je crois pas que dans sa vie on aime beaucoup. Je crois qu'on aime 2, 3, 4 fois dans sa vie maximum. Le Québec en fait partie. C'est je sais pas pourquoi. Souvent on me pose cette question. Est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on aime? Parce que c'est comme si j'aimais une personne. Hein.
Absolument.
J'ai un lien très fort. Bon, moi je pense que il y a une chose très importante pour vous, c'est la mémoire. Vous pouvez pas oublier d'où vous venez et qui vous êtes. Sinon, vous seriez perdu complètement. Mais ça crée un lien très fort, quoi. Je crois que la première fois que je suis venu ici, ça m'avait frappé l'attachement que les gens avaient à leur identité.
Ah oui, c'est même écrit sur nos plaques d'immatriculation.
J'en ai une à la maison.
Pour vrai?
Ouais, on m'en a fait cadeau. Il y a des Québécois qui m'ont offert Michel Bougenat, je me souviens. Et ça m'a beaucoup touché. Mais c'est très important. Je pense qu'il y a ça. Je pense aussi le fait que vous êtes tout le temps en train de vous battre pour prouver que vous existez. C'est-à-dire que c'est frappant de voir ça. C'est un peu en train de changer, mais j'ai l'impression que, par exemple, la France regardait les Québécois un peu comme des super provinciaux, quoi. Et peut-être que ça a aussi motivé beaucoup les Québécois pour montrer qu'ils n'étaient pas comme les Français les voyaient. D'ailleurs, c'est pas un hasard si vous avez inventé Maudit Français, si vous adorez vous moquer des Français, ce qui est très facile, hein, parce qu'il y a de quoi se moquer.
Ben, l'inverse se fait aussi, on peut se moquer des Québécois aussi.
Moi, je me moque jamais des Québécois. D'abord, je peux pas. Sauf vos expressions. Il y a des expressions qui... Mais c'est pas tabernac, calice, des trucs comme ça. Moi, c'est des trucs beaucoup plus quotidiens que j'ai entendus, comme « il pleut-tu ».
Ouais, on ajoute le pronom après. Oui.
Ça veut rien dire, il pleut-tu. C'est « tu manges-tu ». Comme s'il fallait demander deux fois.
C'est vrai.
Mais la première fois que j'ai entendu « il pleut-tu », moi, ça m'a... Ça m'a, j'ai adoré ça. Et comme j'ose pas tutoyer, j'ai dit « il pleut-vous ». Et c'est... Il y a ça. Sinon... Non, ce qui est frappant, c'est cette envie que vous avez et de rire. Parce que je ne sais pas si vous êtes très conscient de ce problème-là, vous, les Québécois. Mais quand on vient de l'extérieur, on se rend compte très vite. Vous avez 7 millions d'habitants. Il y a pratiquement autant d'humoristes ici qu'en France. Un humoriste qui a du succès ici, il fait 300 représentations de son spectacle entre Montréal et la tournée. D'accord ?
Mm-hmm.
C'est comme si en France, le mec faisait... 3000 représentations, puisque vous êtes 7 millions d'habitants et 70 millions en France. C'est fascinant. C'est le premier endroit au monde, c'est le seul endroit au monde où il y a une école pour apprendre à faire rire.
C'est vrai.
Vous êtes cinglés. Vous êtes complètement fous.
Et ils les forment ici et après, ils les envoient chez vous.
Exactement. Et chez nous, ils font un carton. Vous aimez rire. Et un peuple qui aime rire de lui... Ça veut dire qu'il est encore en bonne santé. Il est cinglé, mais encore en bonne santé. Et je pense que c'est très, très important.
Et vous avez tissé des amitiés solides avec deux Québécois que nous, en fait, qu'on connaît.
Oui.
Jean-Michel Anctil et Michel Barrette. Vous les avez créés comment, ces amitiés-là, avec la scène?
Ouais. Jean-Michel Anctil, en fait, j'étais à Québec et je l'ai vu rentrer sur scène et il faisait Priscilla. Comment ça va? Bonjour tout le monde. C'est la vie, oh, c'est magique la vie. Et j'ai adoré ça et tout de suite je me suis mis à l'imiter. Et très vite, je suis allé le voir. Je me suis dit, ah, c'est formidable, ce personnage est génial et tout ça. Et quelques temps après, je lui ai volé Priscilla. J'ai fait un numéro à Québec où je rentrais habillé en Priscilla. Et lui arrivait en Priscilla aussi en disant, mais tu m'as volé. Et on avait beaucoup ri, beaucoup, beaucoup ri. Et c'est un personnage que j'adore. Il est magique la vie. Et, et, euh, Et en plus, ce qui est fascinant, c'est la capacité qu'on a eue avec Jean-Michel à improviser. Et c'est la même chose avec Michel Barrette. Michel Barrette, c'est pire, hein.
Ben Michel Barrette, je veux dire, il peut parler pendant deux jours. Sans
deux
arrêt.
Jours, vous êtes gentil, deux jours. Deux ans, ouais.
Oui.
Une fois, j'ai fait la Malbaie Chicoutimi en voiture. C'est lui qui conduisait, évidemment. J'ai dû dire « et alors ?» C'est tout. c'est peut-être les deux mots que j'ai dit. Le reste du temps, il a parlé. Mais c'était passionnant. Ce qui est génial avec Michel, c'est qu'il est passionnant. Moi, je descends de l'avion, je dois animer un gala juste pour rire. Toute une soirée. Avec un mec qui s'appelle Michel Barrette, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. En fait, j'avais déjà vu avant quand il faisait IA. 120 minimum.
Oui, IA. Bon. IA Tremblay.
Oui, IA Tremblay. Je l'avais vu, mais je ne savais pas que c'était lui, parce qu'il est méconnaissable. J'ai les textes qu'on m'envoie à Paris et je les lis dans l'avion. Et je déteste ces textes-là. Et j'arrive à Montréal, il est 17h. Je dois être sur scène à 8h30, à 20h30. Okay, le décalage horaire, plus le fait que je n'ai absolument pas répété, que le garçon avec qui je vais animer toute la soirée, je ne l'ai jamais vu. Je me retrouve dans sa loge, bonjour, bonjour. À part qu'on a les mêmes initiales, c'était la seule chose. Je fais, mais vous aimez les textes? Il me fait, non, je hais ça. On est rentré sur scène, on a déchiré les textes. Là, c'est la première chose qu'on a fait. Et à partir de là, on a improvisé comme deux musiciens de jazz. C'était magique. Depuis ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. La seule blessure qu'on a tous les deux aujourd'hui, c'est qu'on rêve de faire un film ensemble, que j'adorerais qu'il y ait enfin un scénariste québécois qui veuille bien nous l'écrire, parce qu'on n'a pas le temps. On a l'idée, puisqu'on veut écrire sur deux pères absolument envahissants dans la vie, qui sont monoparentaux, et ils ont une fille chacun, il y a un expatrié, un québécois, et c'est pas difficile, chaque fois que leur fille est approchée par un garçon, ils se débrouillent pour lui crever les pneus, pour l'étrangler, ils sont plus que possessifs, plus qu'inquiets. Et ces deux types font une alliance sacrée pour protéger leur fille, genre. Et les filles, elles n'ont qu'une envie, c'est qu'ils crèvent leur père. Hein. Et j'adorerais faire ça avec lui. D'abord parce que j'ai une fille
de 10
ans.
Mais on a 3 tonnes de scénaristes ici.
Mais j'attends. Et ils sont où?
Il y en a plein. Il y a surtout des scénaristes qui ne travaillent pas assez. Donc j'imagine que...
Que c'est un appel officiel que je fais aujourd'hui, encore une fois. Nous, on est prêts à rencontrer les gens avec Michel. On est prêts à travailler dessus. Je rêverais de faire ce film ici. Je rêverais de faire ce film, Michel. On va beaucoup rire, on va beaucoup s'amuser. Et on va dire des choses aussi sur la famille, sur la relation père-fille. Parce qu'on a beaucoup parlé de père-fils. Moi, j'ai même fait un film qui s'appelle Père et Fils.
Oui.
Et je rêverais de faire un... Et maintenant, j'ai l'âge de jouer le père d'une fille de 19 ans, même plus. Et lui aussi. Et donc, ça peut être très touchant de faire ça. Vraiment, ça m'amuserait beaucoup. C'est l'autre seule blessure. C'est que chaque fois qu'on se voit, on se dit, bon, alors on fait ça quand? Sinon, on passe des soirées ensemble, on ne peut pas se quitter.
Et est-ce qu'il pourrait arriver qu'un de ces deux amis-là fasse un saut pendant votre spectacle d'humour, ou le spectacle d'humour est tellement basé sur votre expérience personnelle que c'est impossible d'insérer...
Si Michel Barrette vient me voir pendant la représentation en tournée, qui monte sur scène juste pour me dire bonjour, on ferme le théâtre. on séquette les spectateurs et on sort vers 4h, 5h du matin. Ou alors, il faut amener à manger.
Ma vie rêvée, ça parle de quoi? Ça parle évidemment de vos rêves, mais vous les amenez où, vos rêves?
Je parle de toutes les choses qui me bouleversent, qui me touchent depuis pratiquement ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai décidé d'inventer une vie. De ne pas raconter ma vie, parce que la réalité ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, moi, c'est mentir. Et dans les mensonges, dire la vérité. Par exemple, j'adore la pêche, mais je suis nul. C'est pas que je suis nul. C'est que quand je sors avec mon bateau pour aller à la pêche, tous les poissons rigolent. Vous voyez?
C'est quand la dernière fois que vous avez attrapé un poisson?
Je me souviens pas. Je me souviens pas du tout. Et qu'est-ce que je dis dans mon spectacle? Je dis que quand j'étais petit, je mettais ma canne à pêche dans l'eau et tous les poissons sortaient de l'eau en disant « pêche-moi, moi ». Je raconte que les poissons m'aimaient tellement qu'ils étaient d'accord pour être pêchés par moi. Je raconte que le soleil me répondait. Je raconte plein de choses comme ça. Mais ça me permet de dire, un, que j'aime le soleil, que j'adore la pêche, et ça, c'est un exemple. Mais quand je parle de ce petit garçon de 10 ans qui réveille son père à 4 heures du matin pour lui parler de la mort, c'est moi aujourd'hui qui me pose ces questions-là. Et pour le raconter, je passe par un enfant de 10 ans. Quand je parle du sein des femmes, quand j'avais 16 ans, parce qu'à mon époque, quand on avait 16 ans, c'était très difficile d'apercevoir les seins. Hein. Il fallait être James Bond. Hein. Aujourd'hui, c'est facile. Vous tapez une paire de chaussures sur Internet, il y a une paire de seins qui sort. C'est une catastrophe. Il n'y a rien d'extraordinaire à apercevoir les nichons des femmes aujourd'hui. Mais à mon époque, quand j'avais 16 ans, c'était impossible. Donc quand je raconte ça à 16 ans, je le raconte, j'en fais des mégatonnes. Ça devient de la poésie, ça devient une aventure, ça devient... Mais c'était vrai que mon rêve, c'était de voir les seins quand j'avais 16 ans. Et éventuellement de les toucher, mais enfin bon. Déjà, les voir, c'était énorme. Vous savez, ouvrir les soutiens-gorge. J'étais le spécialiste au monde de l'ouverture du soutien-gorge. Je passais mon temps devant les magasins de lingerie pour voir les fermetures toutes. Je les connaissais toutes par cœur. À 17 ans, quand il y avait des booms, on appelle ça des booms ici aussi, des surprise parties, enfin des anniversaires, des fêtes.
Des parties,
quand on faisait des slows, j'étais connu parce qu'avec deux doigts, je défaisais les soutiens-gorge de toutes les filles.
Faites attention, là, on est post-MeToo. Hein?
Oui, je sais, c'est fini, je sais. C'est-à-dire qu'en même temps, nous, les hommes, on a souffert, quel beau lapsus. On en a profité pendant des années, des siècles. On vous a traité comme rien du tout pendant des siècles. Là, on va souffrir pendant des siècles, c'est évident, parce que vous vous êtes réveillés et c'est très bien comme ça. Moi, je suis pour tout ça, à 200%. Le seul problème, c'est évidemment, comme dans tous les mouvements, il y a des débordements. Ça crée des problèmes. Parfois, c'est injuste, vous voyez. Mais je ne peux pas être contre ça, parce que quand on sait, par exemple, qu'en France, il y a plus de deux femmes qui meurent par jour sous les coups de leur conjoint, quand vous savez que jusqu'en 80, un homme avait le droit de violer sa femme, après ils étaient mariés, parce qu'il pouvait l'obliger à faire le devoir conjugal, il n'était jamais condamné, parce que c'était sa femme, c'est délirant, d'accord ?
Ouais.
Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Moi, j'adore les femmes. Je les adore, mais je n'ose plus. La dernière fois, il y avait une femme sublime dans la rue, elle marchait, sublime. Elle était belle. J'avais envie de lui dire, madame, vous avez des jambes magnifiques. Bon, j'ai pas osé. J'ai dit, madame, vous avez de belles rotules.
C'est moins charmant.
Ouais, elle m'a pris pour un médecin, c'est passé. Vous voyez mais je suis pour ça, évidemment. Évidemment. Bon, que balance ton porc, c'est pas mon truc. Hein. Parce que le porc, c'est pas mon truc du tout. Ouais, il aurait dit, balance ta boulette, bon, des trucs comme ça.
Vous avez fait des spectacles aux États-Unis?
Oui.
Je suis assez surprise de ça, de savoir qu'on peut faire de la tournée aux États-Unis en français.
Oui. Il y a beaucoup de Français, hein. Il y a beaucoup de francophones et beaucoup de Français. J'ai joué à Denver, Colorado, par exemple. Il y avait beaucoup d'Américains qui parlaient français. Je me suis beaucoup amusé. Hein. Parce que si vous entendez mon anglais, vous suicidez au bout de 4 secondes.
Mais ça veut dire aussi que vos histoires sont universelles. Vous êtes capable de communiquer. Un Québécois va s'intéresser à la même histoire qu'un Américain, que d'autres gens en Europe.
Un gosse de 16 ans qui dit j'adore les seins des femmes. Je ne pense pas que ce soit typiquement ni français, ni québécois, ni américain. Je pense que c'est humain. Un garçon de 10 ans qui se pose la question, qui dit « ça serait beaucoup mieux de dire que la vie est éternelle et la mort éphémère, et non pas l'inverse comme ça l'est », il n'a pas besoin d'être spécialement américain pour le dire. Il suffit que ce soit un être humain. Quelqu'un qui dit « au fond, peut-être que ma mère, elle n'a jamais été inquiète ». Mais elle a dit qu'elle était inquiète pour qu'on dise d'elle que c'est une bonne mère. Si je suis un peu gros, c'est certainement parce qu'on a dit à ma mère qu'il fallait bien me nourrir pour être une bonne mère. Mais peut-être qu'au fond, ma mère, elle n'avait pas envie de faire ça. Peut-être que ma mère, elle avait envie juste de vivre sa vie et puis voilà. C'est pas spécialement et spécifiquement français.
Non, c'est vrai.
Vous voyez ? Je veux dire, l'exil de l'enfance, par exemple. Je pense que le premier pays qu'on quitte, c'est le pays de notre enfance. C'est notre enfance. Le premier exil qu'on vit dans une vie, c'est ça. Et c'est un pays dans lequel on a du mal parfois à retourner. C'est triste. Moi, dans ma vie rêvée, je raconte que je peux, puisque c'est ma vie rêvée, je raconte que je peux retourner là où je suis né et aller chercher ce petit garçon qui est resté là-bas, qui est moi.
C'est important de rêver dans la vie.
Mais on ne change pas le monde si on ne rêve pas. On ne fait rien sans rêve. C'est horrible cette phrase qui dit « Celui-là ne l'écoute pas, c'est un rêveur ». Non, il faut l'écouter, parce qu'il rêve. Et moi, je pense, comme j'ai dit dans le spectacle, je pense qu'il faut rêver sa vie. Et la vie qu'on rêve, si on la rêve très très fort, à la fin, la vie qu'on rêve, on la vit. Même si parfois ça peut devenir un cauchemar, ça vaut le coup d'essayer. Parce que sinon, on ne peut pas avancer. L'important, ce n'est pas de réaliser le rêve. L'important, c'est d'en avoir. Vous voyez ? Moi, j'ai toujours rêvé d'être le champion du monde de tennis. Bon, j'ai arrêté ce rêve. Mais ça m'a fait vibrer pendant des années. J'ai arrêté quand McEnroe, Borg et Federer m'ont envoyé des chèques pour me demander d'arrêter parce qu'ils avaient très peur.
Mais ça nous garde vives.
Mais bien sûr. Comment on peut vivre sans rêve ? Vous savez, quand on dit « j'en ai toujours rêvé », il y avait même une marque de je ne sais plus quoi qui disait « vous l'avez rêvé, on l'a fait ». C'est-à-dire que... Et puis, un des plus beaux discours de l'histoire, c'est « j'avais un rêve ».« I have a dream ». Je pense que les grands visionnaires sont des grands rêveurs. Écoutez, des mecs, ils étaient trois dans un garage. Ils ont rêvé d'inventer une machine qui a changé l'histoire de l'humanité. Qui a permis aujourd'hui, parce que sans Internet, il y a des révolutions aujourd'hui qui n'auraient pas eu lieu. C'est fantastique quand même. Si on ne rêve pas, on n'avance pas. Alors ça ne donne pas toujours de bons résultats, les rêves des hommes, parce que les hommes sont fous, parce que les hommes sont les plus grands prédateurs que la nature ait créés. C'est fantastique. Parce que l'homme, c'est un des seuls qui tue pour le plaisir, pas seulement pour se nourrir. L'homme, il détruit aujourd'hui, il détruit tous les jours son habitat. C'est comme si vous avez une maison et vous y mettez le feu, en habitant dedans. On est en train de se brûler vif. C'est fantastique. Vous savez, moi, j'adore la mer. J'ai un bateau. Dès que je peux être en mer, je suis en mer. L'hiver, l'été, je m'en fous. Le nombre de sacs en plastique que je vois dans la mer, jeté par des gens qui ont des bateaux, parce que pour qu'il y ait un sac en plastique au milieu de la mer, c'est qu'il y a un mec qui était sur un bateau et qui l'a jeté. Or, le mec qui est sur le bateau, dans 90% des cas, c'est un mec, c'est un plaisancier. C'est-à-dire, c'est un mec qui dit qu'il aime la mer parce qu'il a acheté un bateau. Ça coûte cher, un bateau, pour aller sur l'eau. Et il tue son plaisir. Merde, c'est comme si un mec, il se coupe la bite. Vous voyez ? Il s'empêche de procréer, il s'empêche d'avoir du plaisir. C'est fou quand même, non ?
C'est vrai.
Moi, ça me fascine, ça. Le côté suicidaire de l'être humain. Suicidaire. Plus des hommes que des femmes, d'ailleurs. C'est normal. Vous portez la vie. Nous, notre problème, c'est qu'on ne la porte pas, la vie, nous, les hommes. Donc, la seule manière qu'on a d'avoir du pouvoir sur la vie, c'est d'être capable de la supprimer. C'est horrible de dire ça. Mais je pense que c'est comme ça que nous, les hommes, on dit qu'on a du pouvoir sur la vie. On se prouve tout le temps qu'on est capable de la supprimer. Tandis que vous n'avez pas besoin de ça, vous la donnez, la vie. Alors, on vous aide un petit peu. Bon, ça dure, bon, dans mon cas, 42 secondes. Mais on participe. Mais c'est vous qui l'apportez, la vie. Je me demande si, au fond de moi, je n'aurais pas voulu être une femme. Et en même temps, je suis très, très... Je suis très heureux d'être un homme parce que ça m'a permis et ça me permet d'aimer les femmes.
C'est gentil. Au moins, vous les aimez, c'est déjà ça.
Ah ben, bien sûr que je les aime. Elles m'ont tout apporté. C'est une femme qui m'a dit un jour, arrête d'essayer d'être intelligent, t'es drôle. Arrête. Parce que c'est vrai que j'ai un côté, genre, je veux tout le temps être juste, dire des choses intelligentes. Je suis casse-couille, quoi, en gros.
Mais moi, je voulais vous remercier, avant qu'on se quitte, je voulais vous remercier parce que vous avez quand même marqué mon enfance par deux choses. Le numéro sur la digestion.
Oui.
Ça, j'ai des souvenirs très clairs de ça. Et pour Trois hommes et un couffin.
C'est gentil.
C'est des films, en fait, Trois hommes et un couffin, c'est un des films que j'ai vus étant jeune puis qui a formé mon amour pour le cinéma français, entre autres.
C'est adorable.
Et je sais qu'il y a eu tous les remakes américains, mais ça n'a jamais battu l'original.
C'est gentil. Elle est bien. 98,5, il faut la garder. Elle est très bien. Hein. Faut la garder comme ça. Alors maintenant, si elle change, vous la virez. Mais si elle reste à mémé comme ça, vous la gardez.
Merci, puis je vais aller voir votre spectacle aussi.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Michel Boujna.
Mais c'est moi qui vous remercie.